Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Benjamin Griveaux, désigné candidat de La République En Marche à la mairie de Paris. Cédric Villani, son principal adversaire, ne dit rien de ses intentions quant à une éventuelle candidature malgré son échec. Les explications de Stéphane Robert dans un instant. Mediapart met en cause François de Rugy pour des dîners somptueux alors qu'il présidait l'Assemblée nationale. Le ministre de la Transition écologique invoque un devoir de représentation. Le reportage à l'Assemblée de Frédéric Seyss. Donald Trump a le bras long. Le président américain a obtenu la démission de l'ambassadeur britannique à Washington. Kim Darroch avait évoqué l'incompétence et l'instabilité supposée de l'actuel locataire de la Maison Blanche. La correspondance à Londres d'Antoine Gignot. Le favori a donc fini par l'emporter. Benjamin Griveaux sera le candidat de la majorité aux municipales à Paris en mars prochain. L'ancien porte-parole du gouvernement a été investi ce soir par La République En Marche. En début de soirée, son concurrent le plus sérieux, Cédric Villani, avait lui-même annoncé sa défaite sur Twitter. Le député de l'Essonne, qui s'est bien gardé de féliciter son rival et qui laisse même entendre qu'il pourrait se présenter en dehors de LREM. Stéphane Robert.
Ce n'est pas vraiment une surprise. Benjamin Griveaux était le grand favori de cette course à l'investiture. Le troisième homme, le vice-président de l'Assemblée nationale, Hugues-Anson, s'était déclaré beaucoup trop tard, il y a quelques semaines seulement. Son autre rival, le député mathématicien Cédric Villani, avait lui réussi à entretenir une sorte de faux suspense en ralliant à sa cause un certain nombre de soutiens, notamment l'ex-secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi. Mais sa candidature est sans doute apparue un peu trop farfelue, avec en termes de résultats des perspectives beaucoup trop aléatoires pour qu'Emmanuel Macron mise sur ses chances de victoire. Parce qu'évidemment, ce n'est pas la Commission nationale d'investiture qui a fait le choix de Benjamin Griveaux, pas plus que le parti En Marche, soi-disant chargé d'entériner les recommandations de cette commission. Les enjeux des municipales à Paris sur la suite du quinquennat sont beaucoup trop importants pour qu'Emmanuel Macron laisse le soin à d'autres de prendre une décision. C'est évidemment lui et lui seul qui décide, expliquait tout à l'heure un conseiller, parce que c'est lui et lui seul qui devra assumer les conséquences d'une victoire ou d'une défaite. Ce qui est un peu surprenant dans le choix de Benjamin Griveaux, c'est qu'il est très clivant, qu'il suscite même plus de rejet que d'adhésion, selon un sondage publié à la fin du mois de juin. On pourrait dès lors se demander si sa légitimité ne pourrait pas être contestée. Cédric Villani entretient d'ailleurs ce soir un doute sur un éventuel maintien de sa candidature. J'aurai prochainement l'occasion de m'exprimer sur les perspectives qu'il convient à présent d'ouvrir, a-t-il déclaré sur Twitter.
Stéphane Robert, merci. François de Rugy garde bien évidemment la confiance d'Emmanuel Macron. Déclaration de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, en réponse aux informations de Mediapart sur le ministre de la Transition écologique. Alors qu'il était président de l'Assemblée, François de Rugy aurait multiplié les dîners fastueux à l'hôtel de Lassé, avec force homard, champagne et grand cru à 500 euros la bouteille pour certains. Le site d'Edoui Plenel dénonce cette utilisation de l'argent des contribuables dans un article intitulé « La vie de château sur fonds publics ». François de Rugy répond que ces dîners entraient dans le cadre de son travail de représentation. L'affaire François de Rugy, si tant est qu'elle existe, est arrivée à l'Assemblée, mais elle n'a pas enflammé le Palais Bourbon, Frédéric Seyss.
Ce n'est pas la foule des grands jours ni des grands scandales à l'Assemblée nationale. Bien sûr, les opposants les plus véhéments sont venus protester, comme Hugo Bernalicis de la France Insoumise.
Donc ça va, quoi. S'il veut se payer un repas, il se paye un repas, quoi. Ce genre de cas de figure-là, dans tout un tas de pays européens, des ministres ont sauté pour moins que ça, quoi. Rembourser, oui, ça serait le minimum syndical, s'il a reçu des gens qui n'avaient rien à voir avec sa fonction présidentielle. Après, ça montre une pratique du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, qui est complètement déconnectée de la réalité et des enjeux politiques.
Mais la plupart des députés, de la majorité comme de l'opposition, fuit les micros ou quand il s'arrête, il se montre fort tempéré à l'image de Philippe Gosselin, élu Les Républicains.
Moi je ne suis pas procureur, je ne suis pas chargé de distribuer les bons et les mauvais points. Encore une fois, je me méfie de ces polémiques qui peuvent enfler très très facilement. Vous savez, c'est facile de jeter en pâture le nom de tel ou tel responsable. L'opinion publique est tellement sensible et on doit instruire ce genre d'affaires à charge et à décharge aussi.
Cette pudeur quasi général s'explique peut-être par le flou qui entoure ces fameux frais de représentation. Quel député peut jurer n'avoir jamais invité un proche à dîner? Quel parlementaire peut assurer de ne jamais avoir participé à de coûteuses agapes? Un élu issu de La République En Marche refuse de commenter, puis grommelle en s'éloignant. Tout ça ne va pas améliorer notre image.
Frédéric Seyss à l'Assemblée a noté que l'ancienne ministre de l'Environnement, Delphine Batho, réclame la démission de François de Rugy. Mais la présidente de Génération Écologie est la seule responsable politique à demander le départ du ministre. En 2018, il y a eu en France 121 féminicides. Tous les trois jours, une femme a été tuée par son conjoint ou son ex-conjoint, selon un bilan établi par la délégation aux victimes. Un chiffre en légère baisse par rapport aux 130 féminicides de 2017. Mais la tendance est à nouveau en train de s'inverser. Selon un collectif féministe qui a déjà recensé 76 féminicides depuis le début de l'année, le gouvernement a décidé d'organiser à la rentrée de septembre un Grenelle des violences conjugales. Il n'aura pas résisté bien longtemps à la pression de Donald Trump. Kim Darroch, l'ambassadeur britannique à Washington, a démissionné aujourd'hui. Kim Darroch, qui avait jugé instable et incompétent le président américain dans des mémos diplomatiques révélés par le Mail on Sunday. Depuis ces révélations, Donald Trump avait décidé de boycotter l'ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis. Antoine Gignot nous appelle de Londres.
Il l'écrit noir sur blanc dans sa lettre de démission, Kim Darroch. Impossible de continuer à travailler aux États-Unis. La situation actuelle, dit-il, m'empêche de remplir mon rôle comme je le souhaiterais. Difficile, effectivement, de continuer à fréquenter les salons de la Maison-Blanche. Donald Trump explique ouvertement qu'il ne veut plus avoir de contact avec l'ambassadeur britannique. Il le considère, ce sont ses mots, comme un type très stupide. C'est un départ regrettable, commente Theresa May. La première ministre continue de soutenir le diplomate et précise qu'il est indispensable que les fonctionnaires puissent donner des conseils francs et complets. Même réaction à gauche. Jeremy Corbyn, le chef de file de l'opposition travailliste, explique qu'il déplore la démission de Kim Darroch. Je pense, dit-il, qu'il faut le remercier pour son service honorable et de qualité. En parallèle, les enquêteurs tentent d'identifier la source qui a transmis au Mail on Sunday les rapports confidentiels rédigés par l'ambassadeur. Il pourrait y avoir des poursuites judiciaires, précise le ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt. Il y aura, dit-il, des conséquences graves quand nous trouverons le responsable.
Antoine Gignot, correspondant au Royaume-Uni. Comment va Angela Merkel? La question se pose en Allemagne après la troisième crise de tremblement dont a été victime la chancelière. Aujourd'hui, Angela Merkel se veut rassurante, mais ses explications lapidaires alimentent les spéculations sur son véritable état de santé. À 65 ans, elle effectue son dernier mandat à la tête de l'Allemagne. On retrouve à Berlin Pascal Thibault.
Je vais très bien, il ne faut pas se faire de soucis. Angela Merkel s'est voulue rassurante après un troisième épisode de tremblement en public en moins d'un mois. Même lieu, même symptôme que la première fois, lors des honneurs militaires pour le premier ministre finlandais aujourd'hui, la chancelière s'est mise à trembler alors que les hymnes des deux pays étaient joués, comme il y a trois semaines, lorsqu'elle accueillait le président ukrainien. « Il y a des progrès et je dois vivre avec ça pendant un moment », a encore expliqué Angela Merkel, confirmant à demi-mot les informations des milieux gouvernementaux selon lesquelles la deuxième crise n'était pas liée à un problème médical mais plutôt psychologique, la chancelière se rappelant ses premiers tremblements le 18 juin. Il n'empêche, si l'intéressée se veut rassurante, les explications restent plus que succinctes. La presse allemande, plutôt réservée, se demande de plus en plus si l'opinion publique n'a pas le droit d'être informée sur l'état de santé de la chef du gouvernement dans un pays où aucune obligation légale n'oblige les responsables politiques à le faire.
Pascal Thibault, correspondant de RFI en Allemagne. La question du nucléaire iranien était au cœur d'une réunion extraordinaire de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, aujourd'hui à Vienne. L'Iran a décidé de ne pas respecter certaines contraintes de l'accord de 2015. Téhéran entend ainsi répondre au renforcement des sanctions américaines. Il y a un an, Donald Trump avait retiré les États-Unis de l'accord. Les tensions entre les deux pays se sont à nouveau manifestées en Autriche, Isorias.
Cette réunion extraordinaire s'est tenue dans un contexte tendu alors que l'Iran a annoncé cette semaine avoir recommencé à enrichir de l'uranium au-delà de 3,67%, le degré maximal fixé par l'accord. L'Iran, durement touché par les sanctions américaines, continue de demander aux Européens des garanties solides pour atténuer les effets de ces sanctions sur son économie. Ce mercredi, les États-Unis ont accusé Téhéran de violer les termes de l'accord pour extorquer des fonds à la communauté internationale. Critique vive également à la fin de la réunion du représentant iranien vis-à-vis de Washington, l'application de la politique de la pression maximale qui est destinée à l'échec est la principale cause de la situation actuelle, a-t-il expliqué. La situation a donc peu évolué, or le temps presse, car l'Iran menace de prendre de nouvelles mesures dans 60 jours si ses demandes ne sont toujours pas satisfaites.
Isorias, correspondante à Vienne. Le temps demain, les nuages reviennent sur la moitié nord, quelques gouttes possibles au nord et à l'est de la Seine. Au sud, le soleil s'imposera dès le matin. Température minimale en hausse de 12 à 17 degrés en général, jusqu'à 23 près de la Méditerranée. Les maximales évolueront entre 22 et 34 degrés de la Manche au Languedoc. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.